La France est en deuil. Nous sommes en deuil. Je suis suisse, mais je suis en deuil. Mes frères et sœurs, nous savons tous ce qui s'est passé ce vendredi. Et je voudrais dire quelle est notre position à nous qui sommes nés de nouveau. Il y a quatre livres qui parlent soi-disant du même Dieu. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, il y a le Coran et il y a le Livre de Mormon. Les chrétiens nés de nouveau croient dans l'Ancien Testament mais ne prennent pas tout ce qui est dans l'Ancien Testament parce que tout ce qui est dans l'Ancien Testament n'est plus valable aujourd'hui parce que aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas accepter le Coran parce que 600 ans après que la nouvelle alliance ait été promulguée, installée par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ce livre est sorti. Et je vous lis un passage, c'est dans la sourate 4, versets 88 et 89. C'est Dieu qui parle, paraît-il. « Pourquoi êtes-vous divisés au sujet des hypocrites? Dieu les a refoulés à cause de leurs agissements. Voudriez-vous diriger celui que Dieu égare? Tu ne trouveras pas de direction pour celui que Dieu égare. Il aimerait vous voir incrédules comme ils le sont eux-mêmes. » Et que vous soyez semblables à eux. Ne prenez donc aucun protecteur parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le chemin de Dieu. S'ils se détournent, saisissez-les, tuez-les partout où vous les trouverez. Pour moi, ce n'est pas Dieu qui parle. Je préfère le livre de Mormon. Voilà, c'est dit. J'aime le Nouveau Testament, j'aime aussi le livre de Mormon, parce que ce n'est pas un livre qui dit d'aller tuer son prochain. La vie est précieuse. Amen. Alors peut-être que certains musulmans me diront, mais nous ne croyons pas. Je ne sais pas ce que disent tous les musulmans, je ne sais pas. Je vois simplement ce que je vois. Je sais qu'il y a des musulmans qui sont très gentils, j'en connais. Mais ce que je vois là, excusez-moi, pardonnez-moi, je ne peux pas lire ce livre et penser que c'est Dieu qui a dit ça. Non, je ne peux pas. Donc, voilà. Je voulais le dire. Je pense que c'est nécessaire. Ce matin, nous allons lire dans le Nouveau Testament, qui est le livre de la Nouvelle Alliance, un texte qui se trouve dans Colossiens 3, 1, 7. Colossiens 3, 1, 7. C'est la lettre de Paul aux chrétiens de l'église de Colosse, et il leur dit « Du moment donc que, dans la communion avec Christ, vous êtes ressuscités à une vie nouvelle, cherchez aussi les biens d'en haut, de là où trône le Christ à la droite de Dieu. Que toute votre pensée et toute votre affection soient orientées vers les biens célestes. Ne vous attachez pas aux choses de cette terre. Car en fait, vous êtes mort à ce monde et votre véritable vie demeure désormais cachée avec Christ en Dieu. Mais le jour où le Christ, celui qui est votre vraie vie, se manifestera au monde, alors votre véritable nature sera aussi manifestée à l'univers tout entier et vous partagerez sa gloire. Livrez donc à la mort et maintenez-y les aspirations venant de votre moi terrestre, l'immoralité, les pensées malpropres, les passions incontrôlées, les désirs inavouables et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie. Rappelez-vous, ce sont ces vices qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Tous ces débordements, vous les connaissez bien puisqu'autrefois, lorsque vous marchiez encore dans les rangs des ennemis de Dieu, c'était là votre vie. Amen. Vendredi soir, je vous parlais de Jésus, le Fils unique de Dieu, selon la Bible, et puis de nous, qui sommes aussi fils et filles de Dieu selon la même Bible. N'êtes-vous pas fils et filles de Dieu?
Oui.
Amen. Nous le sommes. Jésus l'a été en toute plénitude pendant son ministère et nous, nous avons à apprendre et à comprendre que nous devons cesser de confondre ce qui est de l'ordre de l'esprit et ce qui est l'ordre de la chair. C'est ce que ce texte nous dit. Or, l'Église a donné une image faussée de Jésus. Elle a fabriqué une image qui a détourné les gens du vrai chemin et du vrai travail spirituel. Parce que nous avons un travail spirituel à faire. Hein. L'apôtre Paul dit que nous devons livrer notre chair à la mort et maintenir notre chair dans la mort. Et ça, c'est un travail. Nous sommes parfaitement humains et l'Esprit de Dieu vit en nous depuis dès avant notre naissance, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été élus avant notre naissance. Donc nous étions déjà, alors que nous étions dans le péché, nous étions déjà enfants de Dieu, mais nous étions perdus. Mais il est venu nous chercher comme une brebis perdue et nous a trouvés. Et nous avons reçu le Saint-Esprit à la conversion. Et dans notre condition mortelle, ici-bas, la matière n'arrête pas de s'opposer à l'esprit. Quand on arrive à maîtriser la chair, ce n'est que pour un moment. Cette victoire ne dure pas. Il y a des bons pasteurs qui essayent de vous faire croire qu'ils sont super saints. Ils vous mentent. Il faut chaque jour et chaque fois recommencer. Quand je parle ici de matière, je ne parle pas que de la matière physique, de la chair physique, mais je parle aussi de la matière psychique, ce que la Bible appelle, ce que la Bible globalise sous le nom de la chair, c'est-à-dire notre corps et notre psy, notre moi, notre âme, notre chair, elle dit, hein. La matière psychique, notre moi, résiste à notre esprit et à l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Hein, notre esprit est bien disposé, mais la chair est... Ah ben oui. Un moment, on réussit à la rendre obéissante, à la faire vibrer, à l'unisson avec l'esprit, et paf ! Elle revient à son inertie première, d'où le proverbe qui n'est pas anti-biblique, mais qui n'est pas dans la Bible, chasse le galop, il revient à cheval. Non, c'est chasse le... Comment ? Chasse le naturel, il revient au galop. Notre vieille nature. Arrêtez de dire que vous êtes une nouvelle nature et que vous êtes parfait. C'est faux, vous nous mentez quand vous nous dites ça. C'est faux, il faut se battre tous les jours. Et il nous faut nous remettre au travail, méditer, prier, nous exercer encore et encore. Bon, c'est vrai qu'avec le temps, on acquiert une plus grande maîtrise sur la chair physique et psychique, mais il ne faut pas perdre la maîtrise. Il faut continuer inlassablement à s'exercer. Si vous dites, ah ben ça y est, je suis arrivé, vous allez voir. Paf! Livrez votre chair à la mort et maintenez-la dedans. C'est ce que Paul dit. Et il sait bien ce qu'il dit, l'apôtre Paul, c'était un homme normal, pas une de ces espèces de foudingues de prophètes qui vous fait croire qu'il a atteint la perfection de la septième trompette à bout filtre ou de je ne sais pas quelle ânerie. Il ne s'agit pas de mourir physiquement, mais de vivre par le Saint-Esprit sous son influence plutôt que sous l'influence des pulsions de notre moi, de notre ego, de notre chair. Physique et psychique. Et cela, c'est le travail de tous les jours. L'autre jour, quelqu'un me disait, ah, maintenant, hein, elle est devenue, elle a beaucoup changé. Ah oui, ben on a vu dans tout le village, hein, beaucoup changé. Enfin, et tu s'excuses, c'est bien. Mais tout le village l'a su. On ne change pas, il faut se maintenir dans la mort. Tout tous, tous autant que nous sommes. Oui ou non? C'est un peu comme Stéphane et Olivier, ils sont musiciens. Ben, voilà. Mais s'ils ont réussi à développer des dons exceptionnels, ils doivent travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours, afin de conserver la maîtrise de leur art et de leur instrument pour pouvoir exprimer de mieux en mieux leur talent, oui ou non, les musiciens. C'est ça, hein, c'est ça. Et c'est la même chose pour un disciple de Jésus. On n'est pas disciple parce qu'un jour on a renoncé à nos biens, selon Luc 14, 33. C'est ça, c'est Luc 14, 33, je crois, hein. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Ou c'est 12, 33. Non, c'est 14, 33. Il y en a qui pensent parce qu'un jour ils ont renoncé à leur frigidaire que, ben voilà, ils sont disciples. On n'est pas disciple de Jésus parce qu'on a tout vendu selon Actes 2 et 4. C'est pas vrai. On est devenu disciple un jour, voilà, ça c'est vrai, mais on doit le rester toute la vie, et ça, c'est un travail. Un travail au quotidien, au milieu des faux frères, au milieu des casse-pieds, au milieu de la maladie, au milieu des contraintes normales de la vie. On doit rester concentré sur notre position de disciple par la méditation, par le contrôle de nos émotions, de nos tendances, de nos paroles, de nos attitudes, par la prière, par des efforts de volonté. Nous devons soumettre notre matière physique et notre matière psychique au pouvoir du Saint-Esprit et au pouvoir de notre esprit qui, lui, est fils de Dieu. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Notre chair est fils de Dieu par adoption. Elle mourra, elle ressuscitera glorieuse, mais c'est notre esprit qui est fils de Dieu. Notre âme ne l'est pas. Elle l'est par adoption, elle peut être perdue. Ah, il faut le dire. Alors Jésus, lui, il se retirait pour prier. Je vous le dis franchement, mes frères et sœurs, s'il avait été totalement Dieu, sans côté humain, il n'aurait jamais eu besoin de le faire. Il devait maîtriser son intelligence, il devait maîtriser son cœur, ses émotions, sa volonté. Il devait maintenir son niveau d'amour pour les gens et pour sa mission au top. Un jour, il a dit, j'en ai marre de vous. Combien de temps je vais vous supporter? Ben oui, ben moi aussi. Je ne parle pas de vous, hein. Vous êtes merveilleux depuis toutes ces années. Et moi, je suis merveilleux? Non, je suis... Ben, merci, c'est gentil. Ouais, j'ai mes défauts. Mais si vous n'êtes pas charnel, vous allez réussir à passer dessus. Si vous êtes charnel, vous allez tout abandonner! Parce que vous n'aurez pas la force, c'est seulement par le Saint-Esprit qu'on peut rester disciple. Il devait recevoir l'inspiration du Père pour pouvoir conduire dans toute la vérité ceux qu'il allait rencontrer. Il devait se ressourcer en force pour pouvoir guérir les malades, parce que chaque fois qu'il guérissait un malade, une force sortait de lui, de l'homme qu'il était. Je sais de quoi je parle là. Je comprends ce texte. Et entre 12 et 30 ans, il a dû étudier, il a dû apprendre, il a dû croître, en sagesse même. Il se préparait. N'est-ce pas là, mes frères et sœurs, la vraie vie d'un fils de Dieu venu dans la chair? Mais bien sûr, oui, c'est notre vie. On se reconnaît là-dedans. Là, c'est une bonne image de Jésus. On se reconnaît là, en Jésus-Christ, quand il était sur la terre. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, 17, je crois. Nous sommes venus sur cette terre, notre esprit est venu sur cette terre, notre esprit est venu s'incarner, c'est-à-dire se mettre dans un corps de chair qui nous était totalement étranger. On vivait avec le Seigneur, notre esprit, tout est merveilleux, c'est fantastique. En venant ici-bas, nous savions que notre corps devait être la matière de notre travail, qu'on allait devoir maîtriser tout ce chenis. Hein, en Suisse, le chenis, c'est le fouillis. Et c'est vrai que c'est un peu le fouillis, parce que quand on vient au monde, on ne naît pas vierge. On naît avec une génétique qui est déjà... terrible, hein? L'héritage de nos parents. Bon, moi j'avais des parents qui étaient pas trop mal,
Mais il y avait des arrières, 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 grands-parents, il y en avait certainement, ils étaient bizarres, parce que je suis bizarre, moi. Je crois que j'ai dû avoir une arrière-grand-mère qui a dû fauter avec un Italien pour que je sois comme je suis. Je ne suis pas tout à fait suisse, dans le sens que c'est vrai que je suis... ou français, je ne sais pas. En venant ici-bas, on savait que notre corps, ça allait être notre matière de travail. Hein, on a à discipliner notre chair, à soigner notre chair, à la laver aussi, hein, tous les jours. Et pas seulement la laver, mais aussi se changer de vêtements tous les jours, sinon ça pue. C'est vrai, c'est comme ça. À l'entretenir, on doit le nourrir, on doit lui donner du repos. On doit discipliner tout ça. Notre corps et toutes ces connexions, excusez-moi, électriques qui agissent en lui, parce que tout ça, c'est des connexions électriques. On les voit maintenant, hein, avec des électrodes qu'on met sur... On voit, hein, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et toutes ces connexions forment notre psychisme, notre être, la personne que nous sommes, notre âme, ce que nous sommes en tant qu'être humain. Et nous avons à prendre conscience que nous, c'est-à-dire notre esprit, vit dans ce corps complexe qui en plus s'use. Il s'use. Oh, pas de mieux en mieux. Les jeunes, ils sont bien, c'est super. Nous, on devient bizarre. Et nous avons un travail à faire pour retrouver notre savoir passé. C'est-à-dire ce que nous savions avant de venir dans ce corps. On doit retrouver ce savoir dans un laps de temps qui a été déterminé par Dieu et que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi il faut se grouiller, il faut se dépêcher. Hein? Il ne faut pas rester là, tranquille, à rien faire. Vous savez, la seule différence entre un simple chrétien qui se lève et qui te bouscule, comme d'habitude, un simple chrétien et un initié, c'est que l'initié, lui, il grandit plus vite. Sur la terre, dans notre condition mortelle, il nous faut toujours s'exercer, faire des efforts, et rien n'est définitivement acquis. Hein, vous lisez dans Pierre, faites tous vos efforts pour rajouter à la foi la vertu, à la patience, etc. Faites tous vos efforts. Il y en a qui disent, oh, c'est par le Saint-Esprit. Ah oui, ben alors, ouais, ben, y a qu'à voir. Hein. Le Saint-Esprit. Ils n'ont rien compris. Bien sûr que c'est par le Saint-Esprit, mais c'est vous qui devez faire des efforts, par le Saint-Esprit, mais c'est vous qui devez les faire. C'est comme vous devez parler en langue par le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit qui va vous forcer à parler en langue, c'est vous qui devez parler par le Saint-Esprit. Mais ça, mon Dieu, c'est un petit peu trop. Il faut être initié pour ça, il ne faut pas être simplement un simple chrétien comme d'habitude. Mais une fois qu'on a compris cela, pardon, on comprend que ce qui nous arrive, c'est ni bon ni mauvais. Tout ce qui nous arrive, c'est ni bon ni mauvais. Que la vie, c'est-à-dire que Jésus, est en train de nous offrir ce qui nous arrive. Et que c'est ce que nous décidons qui va faire la différence. Si nous décidons que nous allons gérer ce qui nous arrive avec la chair, ou si nous décidons que ce qui nous arrive, nous allons le gérer par l'esprit. C'est là que se trouve la différence. Quand vous lisez la Bible, vous acquérez une connaissance. Mais cette connaissance, elle ne vous sert à rien. Mais à rien, il n'y a qu'à voir. Hein. Elle ne vous sert à rien si elle n'est pas intégrée dans votre vécu, dans votre moi. Et vous vivez ici avec un corps, avec une chair. Et votre corps, il a des émotions, Jésus en avait. Par exemple, quelque chose de contrariant vous arrive, ça vous arrive jamais, hein? Oui, moi ça m'arrive, oui. Un truc contrariant vous arrive. Si vous gérez cette chose avec vos émotions, moi si c'est avec des émotions, j'envoie tout le monde balader. Quand je dis balader, je suis poli. Terrible, quand c'est la chair qui agit chez moi, c'est terrible. Hein? Vous savez tous, vous me connaissez depuis 30 ans, hein? Vous savez. Merci de prier pour moi, ça va mieux. Si vous gérez le problème avec votre chair, ben cette histoire-là va vous écraser. Mais si vous décidez de gérer les émotions spirituellement, et de vous dire, ok, C'est Dieu qui m'envoie ça, c'est un cadeau de Dieu. Et Dieu m'aime. Et tout ça, ça va concourir à mon bien. Eh bien, votre émotion, elle change. Plutôt que d'avoir peur ou d'être impatient, ce que notre chair a tendance à être en ce moment, plutôt que d'avoir peur ou d'être impatient ou d'être en colère ou d'être lâche, c'est-à-dire ça va plus, j'en peux plus, je fous le camp. Et il y en a pas mal qui sont partis. Eh bien, grâce à la connaissance, mais qui sert à rien la connaissance par elle-même, grâce à la connaissance que vous avez de ce que Jésus enseigne et de ce que vous entendez dans mes prédications, vous allez changer vos émotions mauvaises en gratitude. Cette catastrophe va me conduire plus haut. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve, être débarrassé de ce qui m'empêche de vivre ce que je désire vivre, ce que mon esprit éternel désire vivre. Vous allez transformer votre connaissance biblique et votre connaissance des choses de la vie, jusque-là inutile, parce que juste intellectuelle, en puissance pour que les choses évoluent dans le bon sens. Et dans ces exercices, Jésus est avec vous. Il n'y a pas que les plantes vertes. Jésus est avec vous parce qu'il est notre grand frère, le premier-né de toute une nouvelle génération d'êtres humains. C'est la nouvelle alliance, c'est ça que j'aime. Le grand frère d'un genre de nouveaux humains. Dans Ésaïe 53, il dit qu'il prolongera ses jours. Comment ? Ben, au travers de vous. C'est pourquoi on peut relever la tête, et pas juste parce qu'on a de la connaissance biblique, non, mais parce qu'on peut faire vivre cette connaissance au quotidien et en vivre. En venant dans cette condition mortelle, Jésus nous disait « Ce que je fais, vous pouvez le faire. » Et même encore des choses plus grandes. Par exemple, il a vécu 3 ans et demi avec Judas. Patient, hein, le mec. Ok. Tous les chrétiens savent ça. Mais pour le vivre, ah, ça c'est autre chose. Parce que ça reste une connaissance intellectuelle. Ils disent oui, je peux tout faire par Jésus, je puis tout par celui qui me fortifie, mais c'est une connaissance intellectuelle. Il faut que ça soit intégré dans votre corps, dans votre chair, dans vos émotions. C'est toute une autre histoire, ça. Alors, la Bible nous dit, je vais vous donner un truc. La Bible nous dit que l'esprit, c'est le souffle. Pneuma, le souffle. Alors, on va faire un exercice spirituel avec le souffle. Alors, bon, si vous êtes en train de m'écouter dans une voiture, ne faites pas cet exercice tout de suite, vous le ferez tout à l'heure. Mais si vous êtes chez vous, tranquille, alors, vous allez le faire avec nous. On va se mettre debout. Vous comprenez pourquoi, si vous êtes dans la voiture, il ne faut pas se mettre debout. Hein. On se met debout. Et puis, pour que la connaissance que vous avez intellectuellement s'intègre à votre corps, je vais prier. Seigneur, je te prie pour que cet exercice fasse du bien à mes frères et sœurs et qu'ils puissent le reproduire chaque fois qu'ils sentent des émotions, c'est-à-dire des pulsions de la chair en eux qui essayent de les submerger. Je te prie au nom de Jésus. Pour qu'il puisse reproduire cet exercice. Amen. Alors, je vais vous montrer. Vous allez respirer par le nez. Vous fermez la bouche, vous respirez par le nez. Vous faites comme ça. Puis ensuite, vous allez vider. Mais en faisant ça. Quand il n'y a plus de bruit, c'est qu'il n'y a plus de souffle. D'accord ? Et puis vous recommencez et vous faites ça 2-3 fois. Allez, on va le faire. On commence. Ah, on va s'arrêter là. Hein. Il y en a qui ont déjà la tête qui tourne. Vous savez pourquoi vous avez la tête qui tourne ? Parce que vos cellules, là-haut, elles disent « Ah, enfin de l'oxygène, asseyez-vous. »« Ah, enfin de l'oxygène, génial. » On respire très mal. Notre corps a besoin d'oxygène pour vivre correctement. Et on respire très mal. On est là, genre... On respire mal. Faites cet exercice 3-4 fois par jour, vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Ça vous permettra de vous mettre au diapason. Votre corps doit être en cohérence avec ce que vous croyez. C'est-à-dire, vous devez calmer votre chair. Et pour calmer votre chair, c'est pas avec du vin. Le vin, ça réjouit juste un peu. C'est la Bible qui le dit. Hein. L'ancienne alliance, remarque, mais enfin, quand même, c'est bien. Hein? Ce qui calme, c'est l'oxygène. Vous n'allez pas me croire? Tant pis pour vous. Ne faites pas l'exercice si vous ne me croyez pas. Et là, j'en entends déjà qui dire j'entends, moi, je m'en fous de ces gens. Moi, je sais ce que je dis parce que je le vis. Et je sais que c'est vrai. Alors, vous avez besoin de calmer votre chair. Ce que vous croyez intellectuellement, c'est que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et que Dieu aime et qui sont appelés selon son dessein. Mais face à l'adversité, face à la bêtise ambiante, face à la méchanceté, je vais pas aller plus loin, hein, face à toutes ces choses mauvaises, votre corps, il produit des acides et ça vous fait mal. Alors, il faut contraindre votre corps à rentrer dans l'harmonie de ce que vous croyez. Et pour ça, vous arrêtez tout. Vous vous mettez debout et vous respirez comme je vous ai dit de le faire. Et vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Vous devez forcer votre corps à la gratitude. Vous devez forcer votre corps à entrer dans le repos de la foi. Faites cela. Parce que faire ça, c'est chercher à vivre la vérité spirituelle. On ne peut pas vivre la vérité spirituelle quand notre corps est complètement chamboulé par des émotions. Qui va me dire le contraire? Quel est l'imbécile qui va me dire qu'il peut vivre par l'esprit parfaitement quand son corps est rempli d'émotions négatives? Et pour chasser ces émotions négatives, il ne suffit pas de dire au nom de Jésus, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est être maître de son propre corps, de sa propre chair, au nom du Seigneur Jésus, bien sûr, mais en être maître. Et le seul moyen que je connais, en tout cas pour le moment, c'est celui dont je viens de vous parler. C'est pas bien? Je le connais, donc je vous le donne. Faire ça, c'est chercher à vivre les vérités spirituelles avec plus de largeur, plus de profondeur, c'est-à-dire dans le niveau de la matière. Tout en tenant compte des analogies que la chair présente, que ces vérités bibliques présentent, avec d'autres règnes de la nature matérielle, physique, psychique, dans lesquels on évolue. Et notre corps, il a besoin d'oxygène. La première chose, quand vous venez au monde, c'est, si vous ne respirez pas, on vous fout une claque pour que vous respirez. Oui ou non? C'est ça, le souffle, l'esprit, la vie. Comme Jésus, le Fils de Dieu, tous les humains, fils de Dieu, sont faits de la même nature, de la même quintessence divine. Alors, je vous rappelle qu'est-ce que c'est que la quintessence. Je vous l'ai déjà dit dans une autre prédication, mais il y en a qui n'écoutent pas toutes les prédications. C'est un petit peu comme ce qu'on voit à la télé en ce moment-là, ce matin, on a regardé encore les informations. Ils répètent tout le temps, ils répètent tout le temps parce qu'il y a des gens qui n'ont pas regardé la télévision depuis vendredi soir. Ils faisaient d'autres choses, ils étaient ailleurs. Et il faut bien les informer aussi, donc on répète. Et je répète aussi, qu'est-ce que c'est la quintessence? Dans le mot quintessence, vous avez le mot essence et vous avez le mot quinte, qui signifie cinq. Eh bien, la quintessence, c'est l'essence la plus subtile et la plus pure. Ce qu'il y a de meilleur est ce qui est essentiel. Ça, c'est ce que le dictionnaire vous dit. Je ne vous l'invente pas. Je ne me permettrai pas d'inventer les choses. C'est l'essence de Dieu. Essence, ça signifie pas, ça n'a rien à voir avec ce que vous mettez dans votre bagnole. C'est autre chose, une autre signification. L'essence, ça signifie être. Ça, c'est ce dictionnaire français. Hein? Arrêtez de toujours dire le grec et l'hébreu. C'est bien le grec et l'hébreu. Mais non, on est français. Enfin, moi, je suis suisse, mais je me sens très français quand même. Nous sommes faits de la même quintessence. Ça signifie que nous sommes faits comme Dieu est. Nous sommes de sa nature, nous dit la Bible. Je blasphème pas quand je dis ça. Pourquoi on trouve le préfixe quinte? Parce que ça signifie cinq. Or, on sait bien qu'il y a quatre éléments. Vous pouvez me dire, même les jeunes, qu'est-ce que c'est les quatre éléments? C'est la terre, l'air, l'eau et le feu. Bravo. Quinte, ça signifie 5. La quinte essence, c'est l'élément esprit, l'élément vie, le cinquième élément. Dieu est amour. L'élément souffle, l'élément subtil, l'élément esprit. Alors un chrétien basique, il ne sait pas ces choses. Il ne sait pas. Et il dissocie le charnel du spirituel. Il n'est pas intègre en cela. Il n'est pas entier. Il n'est pas corps et esprit. Il est dissocié. Il met de côté la chair et il met de côté l'esprit. Il est divisé. Alors que nous sommes un être entier. Nous sommes corps et chair et esprit. Nous le sommes. C'est ce qui fait que nous sommes. Celui qui, par contre, apprend l'initié, c'est ça un initié, il sait que tout est esprit. Rien n'a été fait à partir de rien. Quand les théologiens viennent nous dire « Dieu a créé à partir de rien », ils blasphèment quand ils disent ça. Parce que tout a été fait à partir de Dieu et Dieu n'est pas rien. Donc, le chrétien qui sait, il peut donc prendre autorité sur la matière physique, sur la matière psychique et sur la matière plus subtile, celle qui est l'esprit, la lumière. Il est maître de lui. Donc, savoir ça, c'est une chose. Vous savez maintenant, c'est une chose. Le vivre, c'est autre chose. Il faut l'intégrer. Alors, certains apprennent à travailler spirituellement, puis d'autres, ils laissent tout ça dormir. Et on les appelle les vierges folles dingues. Quand il est écrit que Jésus était l'image du Dieu vivant, ça signifie que Jésus était la quintessence du Père. Si nous ne sommes pas fils de Dieu comme lui, il l'était, alors il ment quand il dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes ». Il ment parce que pour faire les mêmes choses que lui, il faut être de la même nature que lui. Donnez-moi un « Amen,
Amen. ».
Eh oui, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Michel, t'es un intellectuel, tu prêches intellectuel. Bon, ben, si vous voulez rester bêta, voilà, c'est bien. Je peux vous donner des adresses. Vous allez pouvoir écouter des bêtas. Ils disent n'importe quoi. Et puis qu'ils disent Amen, Alléluia. La première fois que ça m'a choqué, je me rappelle, j'étais tout jeune converti. C'était 10 rue du Sentier, à Paris. C'est une grande église. Et là, il y avait le pasteur Botron qui faisait les annonces. Et il disait, eh bien, c'est un Suisse aussi, très gentil. C'est lui qui m'avait pris en charge à Paris pour m'emmener à l'école biblique avec son épouse, un homme très gentil. Je pense qu'il est décédé, maintenant, je ne sais pas. Il disait, aujourd'hui, j'ai la tristesse de vous annoncer le décès de notre sœur Chombier. Et toute l'église, Amen ! C'est pas possible. Ils sont bêtes ou quoi? C'est quoi, amen, quoi? C'est quoi? C'est bizarre, c'est des façons, quoi. C'est, bon, voilà. Il faut réfléchir dans la vie. Les religieux, ils ont voulu mettre une distance infranchissable entre Jésus et nous, pauvres pécheurs. Heureusement, Dieu veille sur sa parole et il n'a pas permis que cette phrase soit ôtée de la Bible. Ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Nous sommes de sa nature, toutes ces choses. Nous sommes ses fils et ses filles. Vous voyez, par ses paroles, par son exemple, Jésus est venu faire prendre conscience aux humains qu'ils ont une filiation divine. Bon, je vais m'arrêter là ce matin parce que c'est déjà pas mal à avaler. Il faut que votre croyance s'ajuste. Il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut que vous méditiez sur ces choses. Et puis, on va en parler entre nous aussi. Et vendredi, Dieu voulant, on ira plus loin. On va aller plus loin parce que si on reste toujours au même endroit, c'est bizarre. On ne peut pas rester toujours au même stade. C'est pas possible. Donc, on va aller plus loin. Et ça sera vendredi prochain. Sois béni, Seigneur mon Dieu, pour cette prédication. Je te prie, mon Dieu, que les frères et sœurs qui ont écouté ça puissent être sérieux et méditent, réécoutent et prennent des notes et réfléchissent et mettent en pratique afin de pouvoir être autre chose que des chrétiens basiques. Je te le demande, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Je te prie aussi pour toutes ces familles qui sont dans le deuil, qui souffrent, pour tous ceux qui sont encore à l'hôpital et qui se battent contre la mort. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu les protèges, que tu les sauves, que tu les délivres, et que les médecins, toutes les infirmières, tous les gens d'hôpitaux puissent faire leur travail, que tu les renouvelles aussi dans leur force. Merci de bénir la police et l'armée, le gouvernement, afin que notre pays, ce beau pays de France, puisse être lavé de toute cette souillure et que nous puissions retrouver la paix si telle est ta volonté. Nous savons que ces choses doivent arriver, mais Seigneur, nous te prions toujours quand même pour la paix parce que nous aimons la paix, nous aimons la tranquillité, c'est sûr. Aie pitié, Seigneur Jésus. Donne-nous encore un peu de temps afin que ceux qui doivent te connaître te connaissent. Merci de bénir François Hollande aujourd'hui et tous les hommes et toutes les femmes qui l'entourent et qui prennent des décisions. Je te prie, Seigneur, que les décisions qu'ils prennent puissent donner à la France toute son autonomie et qu'elle puisse vivre libre, comme dit la chanson, cette vieille chanson. Attention, ça va toujours loin quand Paris se met en colère. Seigneur, je te prie pas que Paris se mette en colère, je te prie que la paix revienne, mais que la justice soit faite. Tu as armé des hommes et des femmes avec l'épée de la justice, permet qu'ils s'en servent d'une façon correcte, afin que nous puissions avoir la paix. Merci Jésus. Amen. Amen.